pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Pour la carrière de Benny Carter, carrière longue et prolifique qui se terminera en 2003 puisqu'il tira sa révérence ultime sous les palmiers de la Californie à Los Angeles à l'âge de 95 ans. En 1935, Benny Carter déménage en Europe et il devient l'arrangeur de l'orchestre de la BBC. 3 ans plus tard, le voici revenu aux États-Unis pour diriger à la fois un grand orchestre et un sextet. Et il repart sur la côte ouest, engagé par les studios de cinéma. Là, il continue d'écrire et de jouer aussi, jusqu'à 90 ans passés. Belle vitalité, vous en conviendrez. Son talent fait qu'il est très sollicité par Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Sarah Vaughan, entre autres, beaucoup d'autres. Dans les années 40 et 50, il avait été l'un des premiers musiciens noirs à écrire de la musique de film, inspirant même Quincy Jones, une référence. Il fit même une apparition dans Les Neiges du Kilimandjaro en 1952. Mais il doit surtout sa célébrité à sa capacité d'écrire des solos de saxophone joués par toute la section avec un bel enthousiasme. Son plus grand succès fut Coco Boogie, écrit avec Don Ray et Jane de Paul, créé en 1942 par Ella Mae Morse. Voici le Tiger Rag de La Rocca. Thank you. petit tour maintenant vers l'ami d'enfance de Benny Carter, le trompettiste qui lui a appris son instrument, avant que Benny ne se tourne quasi définitivement vers le saxophone, le sax. Il était né à Aiken, en Caroline du Sud, en 1903, la même année que Benny Carter, mais il n'eut pas la longue vie de son ami, hélas. Car lui disparut fort jeune, atteint de tuberculose et miné par l'alcool, à l'âge de 29 ans, en 1932. Sa carrière démarra en trompe dans les clubs de New York dès 1920 et en 1921, il rejoint l'orchestre du cornettiste Johnny Dunn dans les Mammy Smith Jazz Hounds. C'est avec l'orchestre de King Oliver qu'il enregistre le 28 janvier 1930 St. James Infirmary.
Box, back coat, and Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing pat.
Bubber Miley est connu comme un des premiers spécialistes de la plunger mute, dont il a su exploiter les possibilités expressives dans l'orchestre de Duke Ellington. En 1923, il rejoint les Washingtonians du banjoïste Elmer Snowden. Quand ce dernier quitte le groupe, Duke Ellington prend la direction de l'orchestre. Les Washingtonians se transforment assez vite en Duke Ellington Orchestra. Millet devient l'une des figures phares de la formation. Il est soliste sur de nombreux titres. Il est par ailleurs crédité comme co-auteur de plusieurs morceaux. Black and Tan Fantasy, Est Saint Louis to Dollar Who, Creole Love Call, Doing the Woom Woom, Blue Bubbles, enfin et surtout les effets Wah Wah, alors Plunger Mute, et les effets de growl de Millet et de son confrère, le tromboniste Joey Tricky Sam Nanton, donne à l'orchestre d'Ellington le son caractéristique de sa période dite Junkel. Nanton est évoqué par Behrend dans le groupe des trombonistes liés à Duke Ellington, mais ils ne sont pas aussi proches les uns des autres sur le plan stylistique que les trompettes d'Ellington. Il cite Juan Tizol et Lawrence Brown avec Joseph Tricky Sam Nanton, en ajoutant que Tricky Sam est le grand homme du trombone growl. Tricky Sam Nanton, le voici au sein de l'orchestre du Duke à Chicago le 15 février 1941. Avec Wallace Jones, Ray Nance, Cooty Williams trompette, Rex Stewart au cornet, lui-même, et Lawrence Brown au trombone, avec Juan Tizol, Barney Bigard, clarinette et sax ténor, Johnny Hodge, sax alto, clarinette et sax soprane, Harry Carney, sax baryton, Otto Hardwick, sax alto, sax baryton, Ben Webster, sax ténor, Duke Ellington au piano, a partagé les arrangements avec Billy Strayhorn. Fred Gitt à la guitare, Jimmy Blanton à la basse et Sonny Greer est aux drums. La définition même du grand orchestre pour Jumpin' Pumpkins. En 1928, Bubber Millet quitte Ellington. On le retrouve alors dans la formation de Zutty Singleton de Noble Sissle, avec une tournée en France en 1930 dans l'orchestre de danse de Léo Reisman. Et enfin, dans des orchestres de revue à Broadway en 1931. À la même époque, on peut l'entendre comme sideman sur des disques de King Oliver, de Jelly Roll Morton, d'Oagi Carmichael, où il croise Bix Beiderbecke. Par ailleurs, en 1930, le trompettiste enregistre ses seules plages comme leader, 6 titres pour le label Victor sous le nom de Bubber Millet and His Millage Makers. D'après Behrendt, le fait que la sonorité et le phrasé jazz se trouvent en opposition dialectique a déjà été démontré. Dans le jazz néo-orléanais, le phrasé correspondait toujours dans une large mesure à celui de la musique folk et de la musique de cirque européenne. D'autre part, la sonorité jazz typique y était considérablement développée. Plus tard, ce type de sonorité sera considéré comme une exagération. Le phrasé jazz est devenu de plus en plus important à titre compensatoire. Ainsi, le jazz moderne, depuis le cool jazz, est aussi éloigné de la musique européenne sur le plan du phrasé que l'ancienne jazz l'était sur le plan de la sonorité. À l'extrême, le phrasé et la sonorité jazz paraissent mutuellement exclusifs. Le phrasé jazz s'arrête là, où la sonorité jazz est la plus forte. Par exemple, dans les solos Jungle de Tricky Sam Nanton, Bubber Millet ou Cootie Williams lorsqu'ils jouaient avec l'orchestre de Duke Ellington. La sonorité Jungle dicte le phrasé, et cette sonorité existe en soi, au-delà du phrasé jazz. L'orchestre d'Ellington, avec Jungle Night in Harlem, illustre ici parfaitement la fameuse sonorité jungle.
Thank you.
Dans le grand orchestre de Duke Ellington, il y avait Harry Carney, que l'on retrouvait avec ses sax, alto et baryton, et sa clarinette. Il était né à Boston en 1910 et avait lui aussi répondu aux trois questions de Panonica de Königswarter en lui révélant ses trois vœux. Premièrement, être en bonne santé. Deuxièmement, être heureux. Troisièmement, que tout le monde soit immortel et sain dans sa tête. Ma foi, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Ben Webster, sax ténor du Duke, avait lui aussi un seul vœu, très pragmatique et immédiat. Là, tout de suite, je voudrais composer une ou deux mélodies. Qu'importe, la baronne continuait inlassablement sa quête des musiciens de jazz et de leurs trois vœux. Harry Carney et Ben Webster font tous deux partie de l'orchestre de Duke Ellington pour ce concerto for Cuti, composé par le Duke et enregistré le 21 janvier 1942 à Chicago. Jungle Night in Harlem et tout de suite Concerto for Cuti ont été joués par Duke Ellington et son famous orchestra. Il y avait toute la troupe, les meilleurs, Wallace Jones, Ray Nance, Cootie Williams, Rex Stewart, Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown, Juan Tizol, Barney Bigard, Johnny Hodges, Otto Wardwick, Ben Webster, Harry Carney, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Fred Guy, Jimmy Blanton, Sonny Greer, Evie Anderson et Herb Jeffrey. avec Coco de Duke Ellington. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé pour vous par Roland Richard dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.